Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs et auditrices, pour cette émission Autour du Livre. Un rendez-vous que vous pouvez retrouver tous les deuxièmes et quatrièmes mercredis du mois, de 20h à 21h. Ce soir, deux invités. Nous allons les écouter dans une interview qui s'est réalisée dans un restaurant de Cavaillon. Nous avons été reçus chaleureusement par ses propriétaires. Quatre repas gracieusement offerts par la maison Le Prévost pour l'association Agoraya des livres et des arts en Cavaillon. Une association créée en juillet 2016 qui ce soir est représentée par sa présidente Laetitia Manant. Donc ma première invitée et son tout premier événement. Donc une soirée sur Cavaillon au cinéma Le Fémina, avec comme premier invité Bruno Puzzulu, qui sera présent tout au long de cette soirée. Donc, la première heure, 20h30, projection du film Père et Fils de Michel Bouchenat, avec Philippe Noiret, Bruno Puzzulu, Pascal Elbé et Charles Berling. Un deuxième temps avec un débat, questions-réponses avec l'acteur Bruno Puzzulu. Et pour terminer cette soirée, des dédicaces autour du livre et du CD de Bruno. Donc, conversation avec Philippe Noiret aux éditions Flammarion. Donc, Philippe Noiret, un grand monsieur du cinéma qui restera longtemps dans la mémoire des gens. J'en suis certaine, pour ceux qui l'ont connu, bien sûr. Nous allons, tout au long de cette émission, écouter cette interview avec Laetitia et Bruno. Une interview qui sera coupée par des temps musique, car Bruno a aussi composé ses chansons dans un album qui s'intitule « Drôle de monde ». Il nous en parle aussi dans cette interview. Il a aussi composé une chanson, « Ma vie », pour Johnny, dans l'album « Le cœur d'un homme », sorti en 2007. Chanson que nous aurons le plaisir d'écouter ce soir dans cette émission. Cette interview sera aussi coupée de conversations entre Philippe Noiret et Bruno Puzzulu. Conversation que l'on peut se procurer. Hein. C'est un coffret de 3 CD et c'est un témoignage de vie par Philippe Noiret et Bruno Puzzulu qui l'interroge et qui lui pose des questions. Donc. Et Philippe nous exprime sa sensibilité et puis l'intimité de sa vie professionnelle et personnelle. Un fort et touchant témoignage. Nous allons donc commencer par écouter cette interview avec un bruit de fond, car comme je vous le disais plus haut, nous sommes dans un restaurant. Je suis en compagnie de Laetitia Manant, présidente de l'association Agoraya, donc des livres et des arts, en Cavaillon. Bonsoir Laetitia.
Bonsoir.
Et de Bruno Puzzulu. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Alors Bruno, qui est votre invité du mois, Laetitia, pour ce premier rendez-vous, donc... que vous avez organisé dans le cadre de votre association Agoraya, dont nous allons dire quelques mots tout à l'heure. Bruno Puzzulu, d'origine italienne, vous avez vécu votre enfance en Normandie, vous êtes acteur de cinéma, de théâtre. On vous voit aussi sur le petit écran dans différentes séries, téléfilms. Plus de 45 films à votre actif. C'est beaucoup.
Ça veut dire que je suis vieux, c'est ça ?
Ah, j'ai pas dit du tout ça. Ça veut dire que vous avez fait beaucoup de films. Donc un petit mot peut-être sur cette partie-là de votre expérience de vie.
Oh ben, oui, le cinéma, ça fait partie de ma vie, comme le théâtre, comme la télé quelquefois. Vous savez, c'est simple, vous avez un scénario, vous avez une pièce de théâtre, vous lisez, ça vous plaît, et puis vous dites oui. C'est aussi simple que ça.
Et comment justement vous est venue cette envie de devenir acteur ?
Parce que j'ai un frère qui a un stit et qui a fait du théâtre amateur, qui fait encore du théâtre amateur. Et moi j'étais vraiment issu d'une famille d'ouvriers, hein, une famille de prolétaires, et on n'allait pas au théâtre ni au cinéma. Et quand mon frère a fait du théâtre amateur, donc nous sommes allés tous ensemble le voir. C'était la première fois qu'on allait au théâtre ensemble et ça m'a plu. Aussi simple que ça. Et suite à ça, j'ai pris des cours de théâtre. Et suite à ça, j'ai voulu tenter le Conservatoire National à Paris. J'ai été reçu et c'est là que tout a commencé.
Alors, vous avez aussi fait vos premiers pas dans la chanson avec un premier album sorti en 2009 intitulé « Drôle de monde » dont vous écrivez pratiquement tous les textes. Vous avez écrit un deuxième album, peut-être, ou pas ? Hein, il me semble qu'il y a un deuxième album qui est sorti.
Pas sorti encore.
Pas sorti, il sortira certainement en 2017, là, cette année.
D'accord, vous avez donc écrit toutes les chansons ?
Oui, j'ai écrit toutes les chansons.
Nous allons donc tout au long de cette émission écouter quelques-unes de vos chansons, comme Toutainville, Ami. Une note de nostalgie, moi j'ai entendu un petit peu dans ces deux textes, nostalgie du passé, mais peut-être plus la partie de votre enfance, de votre adolescence. Quelques mots sur ces choix de textes ?
Oh bah oui, ça, Toutainville c'est mon village. Ami, j'ai écrit ce texte pour un copain d'enfance. Oui, la nostalgie, on a tendance à voir la nostalgie comme une maladie, mais c'est pas du tout une maladie. Les gens pensent que la nostalgie, c'est un problème, c'est du négatif. Pas du tout. Mm-hmm. Pas du tout. Moi, c'est une façon de rester toujours avec les gens que j'aime, avec mon enfance, avec mon adolescence. J'ai été heureux pendant ces périodes de ma vie, donc c'est avec bonheur que je vais les revisiter de temps en temps.
Donc pas de regrets ?
Pas de regrets, non. Non, le regret, c'est de vieillir trop vite, c'est de perdre les gens qu'on aime trop vite. C'est ça, les regrets. Mais sinon, non, je referais tout pareil.
Alors, un peu plus de légèreté avec d'autres facettes de vous, Bruno, avec la chanson Cupidon, pardon, où là, c'est la bague au doigt. Non, l'engagement, c'est pas pour vous. Vous préférez donc la liberté au mariage.
Vous l'avez bien dit, hein, vous avez bien compris la chanson. Oui, moi, je suis un éternel célibataire.
Heureux de l'être, j'ai l'impression.
Oui, j'ai l'air.
Voilà, tout à fait. Alors, il y a la chanson que j'ai bien aimée aussi, c'est moitié on, moitié off. Donc, vous abordez un petit peu ce qui vous fait oui ou non dans votre vie, dans les relations, enfin, un petit peu dans tout ce que vous vivez. Je pense que le message est assez clair. Hein.
Mais dans vos choix de chansons, on voit aussi qui vous êtes. Hein.
Ah, j'ai choisi celle-là. Oui, je vous ai trouvée bien parlante. Il y en avait d'autres aussi qui étaient intéressantes, mais bon, il fallait faire un choix. Alors, vous êtes là ce soir pour nous parler un peu de vous et pour donc dédicacer ce livre que vous avez écrit et intitulé « Conversation ». Je me suis régalée. Alors, qui sont des conversations entre Philippe Noiret et vous-même ? Alors, Bruno, le cinéma, le théâtre, la télé, la chanson, l'écriture, avec un livre à la clé. D'autres passions ?
Le sport.
Oui.
Le sport, d'ailleurs, j'ai écrit à l'équipe magazine durant un an, principalement sur le foot et la boxe. Et puis, les passions, c'est retourner dans ma Normandie, voir mes deux frères et voir ma maman maintenant, puisque mon papa est parti il y a un an et demi. Voilà, et puis ça vous remplit une vie, hein, vous savez. Hein. Je fais beaucoup de choses, donc... Mais c'est vrai que j'ai du mal à rester deux secondes tranquille sans créer, sans écrire, sans lire un texte. J'ai du mal, c'est devenu un réflexe. Dès que j'ai un peu de temps, il faut que je lise, il faut que je pense à un projet.
Toutainville, mon village, tu as beaucoup changé. Plus d'enfants dans tes rues, ils préfèrent la télé. Ça te rend tout triste. Tu ne fais plus danser, plus de balles sur ta place. Je sais bien qu'il te manque les jeunes gens qui s'enlacent. Où est ta rengaine ? Tes bars sont désertés, plus de folles soirées. Toi qui passais des nuits à payer des tournées. Où est ta bohème ? Ta belle équipe de foot est au bas du classement. Tes meilleurs joueurs d'antan sont aujourd'hui rampants. Maudit temps qui passe. On t'a même enlevé ton bon pain de la bouche. T'as plus de boulanger, malheur à qui te touche. Fier tu caches ta peine. Plus l'ombre d'un curé dans ton beau presbytère. L'église est orpheline, c'est une vraie misère. Dieu tu exagères. Puis on t'a torturé en te coupant en deux. L'autoroute fait du bruit et nous fait mal aux yeux. On te défigure. Et quand je me balade empruntant tes chemins, je ne croise plus les vieux que je voyais gamin. Ta mémoire s'envole. J'ai parcouru le monde, ses plus belles capitales. Quand je suis loin de toi, mon petit cœur me fait mal. Toujours tu me manques. Bien souvent dans mes rêves, je me revois en toi, à courir dans tes champs, à jouer dans tes bois. Tu es mon enfance. Mes parents, mes deux frères te sont toujours fidèles. Pardon, je suis le seul à m'être fait la belle. Ne me jette pas la pierre. Mais à la dernière, c'est avec tes dormeurs que j'aimerais peiner, me glisser sous tes fleurs. L'éternité.
On vous a dit qu'il y avait des auditions chez Villard.
Oui. Bon, le bac combat dans toute la petite troupe, là. Et alors, comme j'avais pas passé beaucoup d'auditions dans ma vie, j'avais passé deux ou trois fois, ça s'était pas très bien passé. Et donc, en bon faux d'herche, je me suis dit, moi, je passe pas d'audition. Mais j'ai fait le tour de tous les copains et les copines, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas passer? Moi, je te donne la réplique. Parce que, en gros malin que j'étais, je me suis dit, tu vas pouvoir montrer plein de trucs. Parce que j'ai joué Néron, j'ai joué je sais pas quoi, donc en masse.
Sans avoir la pression. Je vais bien être repéré sans avoir...
C'est bien le diable. Si en mettant deux, trois trucs. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, on est arrivé à Chaillot. On nous a dit, Monsieur Villard n'est pas là, mais c'est Monsieur Gérard Philippe qui fera passer l'audition. Et puis voilà.
Et quand on vous disait Gérard Philippe à cette époque?
Ah putain, c'était là aussi, c'était plus qu'un phare. C'était... Il y avait son aura, c'était la plus grande, c'était déjà là, enfin déjà, c'était au départ, oui, avant. Qui ne reviennent au théâtre avec Villa, c'était la plus grande vedette de cinéma d'Europe.
Quand les gens parlent de Philippe Noiret aujourd'hui, beaucoup de gens aussi parlent de la voix.
Oui.
Est-ce qu'à cette époque-là, on vous en parlait?
Non.
De cette voix, non?
Pas du tout. Non, non.
Aujourd'hui, on entend beaucoup, oh, les cours, ça sert à rien. Moi, de toute façon, je suis acteur, je le sais, on me le dit. Est-ce que c'est pas plus profond que ça aussi, les cours? Est-ce que c'est pas une proximité comme ça? Bah aussi avec les poètes.
Oui.
On n'aurait jamais
abordé, ou fréquenté, absolument, absolument. Moi, c'est vrai que ça a été très important. Rien de particulier, rien de marquant, mais c'était une étape très importante, le cours.
Au théâtre, il y a des jours et des jours pour se tromper. Et puis tout d'un coup, hop, on ne sait pas comment, ça se débloque, ce sur quoi on a peiné pendant 3 semaines.
Tout d'un coup, ça s'ouvre. Le cinéma, c'est encore effectivement autre chose. C'est très étrange aussi ce qui peut se passer aussi. D'abord parce que, bon, si on veut avoir l'occasion de réfléchir sur son métier, sur le métier, et de progresser, donc, il faut déjà avoir le minimum de trucs à faire. Alors, c'est pas en ayant des rôles de 2 jours ou 3 jours qu'on peut arriver à quoi que ce soit. Ça, c'est une des grandes vacheries. D'autant plus, j'imagine, maintenant. Parce que maintenant, alors, si c'est à la télévision, il faut y aller au triple galop.
Les rôles, ça obsède.
Oui.
Tous les jours. Tous les jours, on y pense.
Oui.
À tout moment, quand on parle à quelqu'un, quand on...
Oui.
On sait pas pourquoi.
On dit « Ah ».
Ça doit être...
Ça sonne juste là.
Et après,
un semblant de satisfaction qui apparaît tout d'un coup. Et non pas uniquement de frustration et de déception en se disant, mon Dieu, comme je suis loin de ce que j'imaginais pouvoir faire. quand on se dit bah, peut-être qu'on s'est approché là. Quel bizarre métier.
Ami, te souviens-tu de nos fous rires en classe assis sur le même banc? On était protégés du pire par l'insouciance des enfants. L'été c'était l'éternité, on appelait ça les grandes vacances. Il y avait plus d'heures pour se coucher et rien n'avait plus d'importance. Ne pleure pas mon ami, c'est la vie, c'est comme ça. Ne pleure pas, je t'en prie, je suis là. Toutes nos balades à mobilette qui sentaient bon la liberté. Et c'était tous les jours la fête au pays de notre amitié. Les films interdits aux mineurs qu'on allait voir en changeant de salle, ils battaient bien fort nos deux cœurs grâce au cinéma Le Royal. Ne pleure pas mon ami, c'est la vie, c'est comme ça. Ne pleure pas, je t'en prie, je suis là. Première sortie au bal du coin, c'était pas nous les rois du slow. On se levait souvent pour rien. Tu danses, non merci, à bientôt. Te rappelles-tu de cette Anglaise, bronzant dans un champ dévêtu? Elle nous dit de nous mettre à l'aise, équipe à trois du jamais vu. Ne pleure pas mon ami, c'est la vie, c'est comme ça. Ne pleure pas, je t'en prie, je suis là. Je sais, tout ça, c'est du passé, mais ça fait du bien. C'est vrai qu'on a un peu vieilli, que des gens qu'on aime sont partis. Utopie et réalité ne feront jamais de bons mariés. Mais si tu veux, on sera deux contre les mauvais coups des dieux. Ne pleure pas mon ami, c'est la vie, c'est comme ça. À nos rêves, que le bonheur n'ait plus de trêve. Réapprenons le nom des fleurs, un bras d'honneur à nos malheurs. Bien sûr, on ira voir les filles, et pas seulement de bonne famille. Tu vas voir, on va s'amuser, on va rire à plus s'arrêter. Ne pleure pas, mon ami, c'est la vie, c'est comme ça.
Écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Alors Bruno, si vous êtes là ce soir, c'est grâce à Laetitia. Hein, Laetitia qui donc vous a invité pour ce premier rendez-vous. Alors je vais me tourner vers Laetitia et pour qu'elle nous présente en quelques mots un petit peu son association Agoraya.
Donc mon association Agoraya est née il y a un peu plus de 6 mois. C'est une association culturelle, littéraire et artistique aussi, qui a pour but d'organiser des manifestations modestes dans la ville de Cavaillon et puis peut-être plus tard avec un rayonnement départemental un peu plus large.
Pourquoi justement Agoraya ? Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce terme, ce mot ?
Alors je voulais trouver un nom qui soit original, qui marque les esprits, qui entraîne un questionnement. Donc Agoraya est sorti d'une recherche étymologique, on va dire. Et j'ai trouvé ce nom qui correspond à la déesse Athéna, à l'une de ses casquettes, comme on dit maintenant, à sa casquette de déesse des arts. Donc voilà, ça correspondait bien à la vocation de l'association.
Alors, ces soirées, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment elles vont s'articuler, ces soirées que vous avez commencées? Donc, il y a cette première soirée, là, le 27 janvier. Il y en aura d'autres?
Oui, donc pour l'instant, l'association met en place plusieurs soirées. Des soirées d'agoraya, des soirées de rencontres, d'échanges, autour d'un livre en général qui est le point central de chaque manifestation. Donc cette soirée de ce soir, vendredi 27 janvier, est une soirée vraiment particulière parce que déjà c'est la première, parce que nous accueillons un invité de marque qui est Bruno Puzzoulou, qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. La venue de Bruno Puzzoulou incarne la première pierre à l'édifice que je tente de construire à travers cette association dans sa dimension culturelle, artistique et littéraire. Une dimension qui se veut tout public et non élitiste dans sa ville.
Alors donc, un film, un débat, des questions-réponses avec l'auteur et une séance dédicace donc pour donc le livre de Bruno qui s'intitule « Conversation, je me suis régalée » aux éditions Flammarion. Ça va être des rencontres mensuelles. Est-ce que ça va se passer toutes les fois de la même façon?
Non, pas du tout. Alors ça va être au cas par cas. Donc on va avoir certaines rencontres qui vont être autour d'un livre et d'une projection cinématographique. D'autres rencontres qui pourront être des séances de dédicace avec des auteurs locaux. Voilà, vraiment... Dans l'idée d'un petit salon du livre. Il va y avoir aussi des conférences. Ça va être vraiment dans le sens large de la manifestation culturelle.
Alors, pourquoi ce premier choix avec Bruno Puzzoulou?
Déjà parce que je suis fan, personnellement. Parce que Bruno fait partie de mes acteurs préférés, français, en tout cas, si ce n'est pas mon premier acteur préféré. C'est vrai. Ça a été une révélation en 2003. J'ai découvert Bruno en 2003 dans un film. Et depuis, j'ai même failli faire le trajet. C'était au festival de Deauville. J'ai failli une année faire le trajet parce qu'il faisait partie du jury. Donc voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui est intègre, qui est humain, qui a un rapport au cinéma, un vrai rapport au cinéma, dégage quelque chose de vrai, quelque chose qui est pas fin, alors c'est contradictoire parce que le cinéma et le métier d'acteur c'est forcément quelque chose de fin, mais on retrouve une réalité, une authenticité dans son jeu. Il a un jeu qui me touche énormément. Alors moi j'ai une âme de poète, donc j'ai du mal à exprimer ça. Je m'exprime beaucoup plus facilement à l'écrit, donc le dire à l'oral c'est difficile, mais c'est pour moi une grande joie, une énorme joie de l'avoir ce soir pour la première rencontre d'Agoraya.
Et justement, peut-être que vous pourriez écrire un poème de tout ça, Laetitia.
Alors je lui ai écrit une chanson il y a quelques temps. Un soir j'étais inspirée, j'ai écrit un petit truc voilà comme ça. Mais oui effectivement, effectivement, voilà. oui pourquoi pas.
Vous pouvez le dire en poème.
C'était versifié, c'était une chanson qui était versifiée, donc oui, ça ressemblait à un poème. C'est vraiment une grande joie de l'accueillir et c'était important de sortir un peu des sentiers battus et puis de recevoir quelqu'un qui justement se tourne vers des films d'auteur, vers une écriture qui a de l'émotion, qui a... Voilà, donc ça s'inscrit véritablement dans ce que j'essaie de démarrer sur Cavaillon.
Oui, un premier rendez-vous quand même assez fort, assez important. Alors, je pense que Laetitia, vous avez probablement beaucoup de questions pour Bruno. Mais avant cela, est-ce que vous souhaiteriez dire un petit mot?
Oui, donc j'aurais effectivement quelque chose à dire. C'est Bruno a écrit un livre, il a chanté. Il a des projets d'autres albums, d'après ce que j'ai compris, pour cette année. Donc j'invite Bruno à revenir chez nous à Cavaillon l'année prochaine ou quand il le souhaitera, ou même avant. Donc ce sera bien volontiers que l'association l'accueillera.
Cette nuit dans mon lit, je pense à ma vie. Demain je me marie, je n'ai plus envie de dire oui. Pardon si je vous plaque, je reprends mes clics, mes claques, je retourne dans ma baraque, faut que je me tire sinon je craque. Cupidon, pardon, je ne suis pas fier,
y a trop de jolies filles sur terre. Pourquoi veux-tu que je m'enterre? Je ne suis pas prêt pour les faire. Toutes ces jolies filles, quand elles se déshabillent, mon petit cœur part en vrille. Je ne peux pas rester comme une quille. Oui, je suis infidèle, vraiment pas un modèle. Qu'il gèle ou bien qu'il grêle, je traque toutes les demoiselles. Cupidon, pardon, je ne suis pas fier. Y a trop de jolies filles sur terre. Pourquoi veux-tu que je m'enterre? Je ne suis pas prêt pour les faire. Quand je vois mes amis en couple, c'est l'ennui. C'est plus Byzance au lit s'il n'y a pas la pilule bleue nuit. Ils me parlent des enfants, là j'en prends plein les dents. Et même ma maman me dit mon fils il serait temps. Cupidon, pardon, je ne suis pas fier. Y a trop de jolies filles sur terre. Pourquoi veux-tu que je m'enterre? Je ne suis pas prêt pour les faire. Le même appartement, entendre sa brosse à dents, pour moi c'est débandant. Avant d'atteindre le firmament, tu finiras tout seul, disent toutes celles qui m'en veulent. Mais même dans mon linceul, on dira il est vers l'aïeul. Cupidon, pardon, je ne suis pas fier. Y a trop de jolies filles sur terre. Pourquoi veux-tu que je m'enterre? Je ne suis pas, je ne suis pas prêt. Non, 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 je ne suis pas prêt. Pour les faits.
Vous avez été en couple tôt. C'est pas dur dans ce métier où quand même ça joue énormément, où tout n'est que désir, où tout n'est que quand même. Séduction, quand on est à l'étranger, et puis il y a toujours un moment où on a.
Oui. Oui, bien sûr. Là, c'est très, très difficile de parler de ça. Moi, ça a été tellement important dans ma vie. Ça a été. Ma vie a commencé à partir du moment où j'ai connu Monique, quoi. Avant, il n'y avait rien. J'ai vraiment eu cette sensation. Avant, il n'y avait rien. Il y a eu l'enfance, comme ça, mais entre l'enfance et 30 ans, quoi, où on a eu cette rencontre, j'ai l'impression qu'il n'y avait rien, qu'il n'y a rien eu. Et donc, cette découverte de la vie, finalement, parce que ça a été ma vie. J'ai découvert. J'ai eu la sensation de commencer à vivre, à exister, à pouvoir me considérer, me regarder, à pouvoir m'estimer dans le sens de m'aimer un peu, mais surtout de m'estimer, de pouvoir me juger sur des bases qui me sont apparues à ce moment-là. Avant, j'avais pas de critères. J'avais pas la sensation d'exister vraiment, quoi, parce que je savais pas par rapport à quoi me situer. Et comme là, ça a été cette espèce de révolution aussi. Bon, c'est des choses dont j'ai analysées plus tard, mais je les ai ressenties d'une façon très très forte. Que ça a été des nouveaux, ça a été que je me suis senti fabriqué par ça, créé par ça, cette rencontre. Et donc ça a pris toute la place, quoi. Et tout ce qui était effectivement ces envies, ces désirs qu'on peut avoir, ces émois, cette envie de plaire, de séduire, c'était quand même loin derrière ce fait-là. Et ça m'est apparu comme quelque chose de tellement essentiel. Et je me suis rendu compte, j'ai eu le sentiment, la sensation, que si je détruisais ça d'une fin, ou si je l'abîmais, ou si je le salissais, c'est moi qui éclaterais. C'est-à-dire que tout ça n'existerait plus. Donc, que moi-même, je n'existerais plus. Donc, ça m'a donné une façon de vivre, de tenir non pas mon rôle, mais ma place dans quelque chose qui s'était créé à mon insu, mais qui devenait l'essentiel de ce que j'étais, quoi, de ma vie. Donc ce sentiment d'une chose extrêmement rare, extrêmement précieuse, vitale, voilà, vitale.
Moitié homme, moitié off, moitié homme, moitié off. Pour tes mots d'amour, je suis homme. Te voir tous les jours, je suis off. Moment d'euphorie, je suis homme. Super love story, je suis off. Moitié on, moitié off, moitié on, moitié off. Retour en enfance, je suis on. Prévoir nos vacances, je suis off. Quand je boxe taille, je suis on. Quand tu dis je me taille, je suis off. Moitié on, moitié off, moitié on, moitié off. Car dans le foin, je suis on. Faire des mises au point, je suis off. Mes potes faire la fête, je suis on. Soirée tête à tête, je suis off. Moitié on, moitié off, moitié on, moitié off. Être ton amant, je suis on. Te faire un enfant, je suis off. Pour Viade, je me déboulonne. Dis-moi d'aller me faire cuire un off. Moitié on, moitié off, moitié on, moitié off, moitié on, moitié off, moitié on, moitié off.
Écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Alors, Laetitia, est-ce qu'on commence avec les premières questions pour Bruno ?
Alors, Bruno, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à accepter mon invitation ?
On en a parlé un peu hors micro tout à l'heure. Bien, c'est votre sincérité dans votre démarche, parce que je sais que c'est pas facile d'avoir une association quand on n'est pas soutenu. Du moins financièrement au début, j'espère que ce sera le cas par la suite. Et donc ça se fait avec le cœur, mais le cœur ça suffit pas toujours et je vous trouve très très ambitieuse, très oui, enfin courageuse, c'est pas le mot, parce que le courage quand on fait quelque chose qu'on aime, c'est pas le mot. Mais en tout cas, je trouve que vous faites des choix, que vous avez une ligne. Et ça, c'est pas toujours, parce qu'on en reçoit des invitations, mais bon, quelquefois on sent que ce soit nous ou un autre, du moment qu'il y a quelqu'un qui dit oui, voilà. Alors que vous faites des choix, vous savez exprimer les choses, et donc vous donnez envie aux gens de venir chez vous, de venir jusqu'à vous. Et moi, c'est pour ça que je suis venu.
Merci beaucoup. Alors, si je vous dis « Emmène-moi, l'appât, mécanique céleste, un héros très discret, éloge de l'amour, Irène, dans le rouge du couchant, la liste est non exhaustive. » Bruno, vous avez joué dans une vingtaine de pièces de théâtre et plus de 30 films. Si vous deviez n'en retenir qu'un, quel serait-il et pourquoi ?
C'est difficile, ça. N'en retenir qu'un, c'est comme la poésie. La même poésie que vous lisez tous les jours, elle prend un sens différent. Eh bien, quand je pense aux films que j'ai faits, aux pièces de théâtre, eh bien, tous les jours, elles résonnent différemment, ces pièces de théâtre. Ces films résonnent différemment. Il y a eu des belles rencontres. Mais j'ai pas envie de dire un. C'est comme quand on a des amis. On peut pas dire « mon meilleur ami, c'est... » Parce que pour les autres, c'est pas gentil. Donc j'ai eu des belles rencontres, mais c'est comme un papa et une maman, on ne peut pas choisir.
En 1999, vous avez reçu le César du meilleur jeune espoir masculin pour votre rôle dans le film « Petit désordre amoureux » réalisé par Olivier Perret. Ce 9 ans seulement après votre entrée au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Comment avez-vous vécu cet événement si marquant dans la carrière d'un acteur, cette consécration ?
Je l'ai vécu avant de l'avoir. J'avais été nommé une première fois et je ne l'avais pas eu. Cette deuxième fois, alors, ça a marché au ralenti dans ma tête. Quand j'ai entendu Bruno, j'ai eu le temps de dire « Mais des Bruno, il n'y a que moi dans les 5 nommés. » Et alors j'ai dit « Ça doit être moi. » Puis après, il me semble que longtemps après, j'ai entendu mon nom de famille, Poutzoulou. Alors je me suis levé, voilà, mais j'ai pensé surtout à mes parents et mes frères qui étaient devant l'écran de télévision. Et ça me faisait chaud au cœur pour eux. Mais moi aussi, j'étais content. Et je crois que quand je me suis couché, j'ai mis près de mon lit le César, comme si j'avais peur qu'il s'en aille au petit matin. Et vite, le lendemain, je suis allé en voiture le porter chez mes parents. Et voilà, et c'est là qu'il est d'ailleurs, il n'est même pas chez moi.
Et donc, parmi les films que vous avez tournés, il y a le film de ce soir, de ce vendredi 27 janvier, Père et fils, titre qui vous a permis de retrouver à l'écran l'inoubliable Philippe Noiret, dans une mise en scène à la fois touchante, émouvante et gaie. Bruno, vous avez dit de Philippe Noiret qu'il était votre modèle. Peu avant sa disparition, en 2006, Philippe Noiret, vous avez fait la confidence suivante. « Je n'ai pas peur de la mort, car j'ai vécu en faisant ce que j'aime. » Est-ce en cela que Philippe Noiret est votre modèle, c'est-à-dire pour sa philosophie de vie et son éthique du comédien ?
Oui, vous avez totalement raison. C'est en cela, c'est... Quand on avait nos conversations avec Philippe pour ce livre, je lui ai posé la question de la mort, effectivement, de la vieillesse. Et Philippe me disait « Non, mais moi je me sens comme un arbre, comme une plante. Je fais partie d'un tout, et puis un jour on naît, un jour on vit, puis un jour on casse sa pipe, et tout ça est bien normal. »
Vous parliez un autre jour de cette crainte que vous aviez, que vous avez de... la disparition de vos proches, de vos parents en l'occurrence, et tout ça. Et c'est vrai que moi j'ai vraiment constaté une chose, c'est que à partir du moment où mon père et ma mère sont morts, jamais ils n'ont été aussi présents, quoi, dans ma vie. Ça c'est très évident, quoi, parce que quand ils étaient là, on était très proches, je les voyais très souvent puisqu'on... Ils étaient venus habiter près de chez nous, donc on se voyait plusieurs fois par semaine, sauf quand il y avait voyage, éloignement, mais sinon... Et puis, bon, bah, c'est vrai, je les voyais, et puis je pensais à autre chose, enfin, je pensais, je vivais ma vie et tout ça. Et là, alors, depuis leur disparition, c'est plusieurs fois par jour, quoi, qui viennent à l'esprit. Et concrètement, même enfin c'est peut-être particulier à notre famille, à notre cellule, enfin, mais quand je suis avec Frédéric, avec ma fille, avec Monique et tout ça, il n'y a pas une journée sans qu'on ne les évoque pas, quoi, pour une raison ou pour une autre. avec une chose très troublante que vous connaîtrez sans doute, parce que je crois que c'est une règle. C'est ce sentiment, oui, très, très troublant qui est de mettre les pas dans les pas de son père, quoi, pour un garçon. C'est-à-dire où tout d'un coup, vous surprenez à faire quelque chose ou à dire quelque chose ou à avoir un comportement que vous n'aviez pas jusqu'à l'âge importe peu, mais jusqu'à 60 balais ou 65, et tout d'un coup vous dites, mais ou Monique m'a dit, je me rappelle il y a longtemps déjà, mais des vraiment des conneries, pas des conneries, des détails concrets de comportement. Un jour, en terminant un déjeuner, elle m'a dit, tu viens de plier ta serviette comme ton père. Chose qui ne m'était pas arrivée avant.
Mais je me disais, oui, mais quand le moment venu sera là. Eh bien, je l'ai vu, jour après jour, le moment venu, j'ai vu Philippe au lit, ne pouvant presque plus parler, ne pouvant presque plus bouger, mais gardant toujours son humour. Gardant toujours son humour et avoir toujours un mot gentil pour tout le monde. Et alors là, ça a été une grande leçon. Une leçon énorme parce que je m'en sentirais bien, bien incapable. Enfin, là, ce qu'il disait des années avant, il a tenu sa philosophie jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors là, chapeau, monsieur.
Oui, c'est une belle preuve de courage. Vous avez écrit conjointement l'ouvrage Philippe Noiret, Conversation avec Bruno Pouzoulou, Je me suis régalée. Ouvrage que vous allez dédicacer à l'issue de la rencontre de ce soir. Le passage à l'écriture et donc le glissement vers l'univers des mots non oralisés s'est-il opéré facilement et naturellement en vous ?
Écoutez, ça a toujours été des hasards. Des hasards. Si je pense à tout ce que j'ai écrit, oui, le hasard. À l'époque, par exemple, j'allais chez Philippe Noiret et sa femme. J'avais pas un grand moral à cette époque-là pour des raisons personnelles. Et quand je revenais à Paris, j'allais lui rendre visite et on parlait beaucoup. Et puis un jour, j'ai eu envie de lui demander de faire un livre de nos conversations. Mais j'ai attendu de revenir chez moi et de lui poser la question par téléphone. Parce que je me disais, s'il me refuse, je savais qu'il avait déjà refusé cet exercice. S'il me refuse, on sera pas les yeux dans les yeux. Et puis, s'il me refuse au téléphone, la prochaine fois qu'on se reverra, je ferai semblant de rien. Et arrivé chez moi, je lui ai dit, Fifi, si nos conversations, on en faisait un livre. Il m'a dit, bah allons-y mon grand. Voilà. Et donc, on en a fait un livre. Et voilà, on se voyait. Et puis, on parlait de tout, de la vie, du cinéma, du théâtre. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, ce qui est important dans le fait d'écrire, c'est que ce soit une nécessité. Voilà, surtout ça, une nécessité. Sinon, on n'écrit rien de bon. Par exemple, j'ai écrit une chanson pour Johnny Hallyday. C'était suite à une conversation qui avait duré toute une partie de la nuit. Ensuite, il m'a dit, j'aimerais bien une chanson qui ressemblerait à notre conversation. Quand je suis rentré chez moi, j'ai écrit cette chanson.
toi, je n'ai aucun signe. La vie s'arrête et puis c'est fini, comme un point au bout d'une ligne. On passe nos vies à faire des adieux, à 20 ans, je n'y croyais pas. Je t'ai si souvent parlé, mon Dieu, sur cette terre, je n'ai plus que toi. Oh ma vie, tu passes et tu t'enfuis. Oh ma vie, tu files, tu t'évanouis. Et où sont tous ces gens que j'aimais? Je serai seul à tout jamais. Tout ce temps qui fuit ne revient pas. Comme un voleur, loin il s'en va. Quand on perd tout ce qu'on aime, les preuves du vide et toute ma peine, j'attends le jour du grand soleil même. La vie sépare tout ce qui s'aime.
J'avais jamais écrit une chanson de ma vie, mais j'en ressentais la nécessité, et c'est ça qui compte.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un livre testament pour Philippe?
Non, parce que ce serait, il aimait pas les grands mots, moi non plus. C'est plutôt un livre entre deux amis. Et n'oublions pas que dans le livre, il y a aussi deux autres entretiens, un avec sa fille et un avec sa femme, qui sont très importants. Parce que quand Philippe est parti, j'ai plus voulu faire paraître le livre. Pour moi, ça n'avait plus aucun sens. Le livre est resté dans mes tiroirs pendant un an. Et c'est sa femme qui, un jour, Monique Chaumette, m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est devenu, vos conversations ?» J'ai dit « Philippe est parti », et puis elles sont parties avec lui. Elle m'a dit « Non, fais-en quelque chose. » Parce que Philippe y tenait. Donc j'ai dit « D'accord. » Mais dans le livre, alors accorde-moi aussi un entretien. Je veux un entretien avec votre fille, Frédéric. Donc, ils sont tous les trois réunis dans le livre.
Bruno, avez-vous d'autres projets d'écriture?
Oui, j'écris un autre album de chansons. Et puis, j'écris des nouvelles. Un livre de nouvelles sur mon papa, qui est malheureusement plus avec nous, mais qui retrace notre vie ensemble, notre vie de famille avec autour de notre papa et de notre maman.
Ce livre s'annonce intimiste. Vous avez dit en 2012 une phrase qui résonne et qui a une profondeur par rapport à l'art et à l'écriture. L'art est très soumis au marché. Il faut que cela marche, que cela rapporte. Vous parliez de l'art cinématographique et de sa perte de liberté dans ses choix d'interprétation. Cela peut aussi s'appliquer à la littérature et à l'écriture. Pensez-vous qu'aujourd'hui, soit presque 5 ans après cette déclaration, la société est en mesure de sortir de ce regard mercantile sur l'art en général et de retrouver une appréhension plus authentique par l'émotion de ce qui l'entoure et s'offre à elle?
Ça s'applique aussi au théâtre, ça s'applique à beaucoup de choses. Il y a 5 ans que j'ai dit ça. Oui, je continue à le dire. Et d'ailleurs, vous voyez, on est en 2017. Monsieur Trump vient d'être vient d'être élu aux États-Unis. Et c'est donc qu'on a une société malade, une société sans mémoire, une société qui ne connaît pas son histoire, et donc une société de plus en plus tournée vers le profit, vers le capitalisme. Donc ça risque pas de s'arranger, mais comme me disait Jean-Luc Godard, auquel je pense tous les jours pratiquement, il me disait « soyons pessimistes en idées, mais optimistes en action ». Alors il faut quand même être optimiste en action.
Vous êtes un artiste complet, acteur, comédien de théâtre, auteur et chanteur avec votre actif 2 albums et l'interprétation du magnifique morceau « La vie d'artiste » dans l'album collectif 10 voix en hommage à Léo Ferré. Les sirènes de la chanson vous appellent-elles encore et souvent ?
Oui, on vient de me proposer de participer à un concert au Bataclan en mai. Malheureusement, en avril, je serai sur scène. Je pourrai pas, avec Thiéfen, Cali, mais malheureusement, je pourrai pas. Donc, on fait appel à moi. C'est avec joie, parce que j'adore la chanson. Et j'espère bien faire un spectacle autour de mes chansons un jour.
Votre indépendance de vie, votre liberté d'âme, votre non-conformisme, votre profondeur, votre nostalgie, votre sensibilité, votre fragilité, votre authenticité font de vous un personnage qui sort du cadre conventionnel, qui marque et qui vous rend de vrai, attachant, touchant et sincère. Vos choix ont-ils été toujours guidés par la passion, par la voix du cœur ou quelquefois par la raison et ou les conventions sociales ?
Oh non, parce que j'ai une vision de la vie assez... Je suis assez lucide, donc je sais que tout ça n'a qu'un temps. On vieillit assez vite. J'ai fait beaucoup de sport et on s'en rend vite compte en sport. Et donc oui, c'est toujours guidé par l'envie, par la nécessité, par la passion. Et il y a plein de gens comme moi. Donc non, pendant qu'on est en vie et en forme... Autant faire des choses qui nous plaisent, parce que tout ça se termine assez vite.
Alors, c'est une dernière question comme ça. On a échangé quand je suis allée vous chercher à la gare, un petit peu dans la voiture. Vous m'avez dit vous lasser quelquefois, avoir besoin de changer. Est-ce que le métier d'acteur vous a lassé à certains moments ?
Non, le métier d'acteur ne m'a jamais lassé. Il m'a plutôt délassé. Non, jamais, parce que ce sont toujours des rôles différents. Ce qui pourrait me lasser dans le métier d'acteur, qui n'est pas vraiment le métier d'ailleurs, c'est tout ce qui est périphérique au métier d'acteur. Moi, j'attends qu'on me demande comme acteur parce qu'on me voit à l'écran ou qu'on me voit sur scène. Pas parce que je raconte des bonnes blagues à table ou pas parce que j'invite machin ou machine à manger. Ça, je m'en fous et je suis très mal à l'aise dans ces moments-là. Donc, pour l'instant, j'ai eu la chance que les projets viennent toujours à moi sans jamais faire la manche. Mais d'une manière générale, c'est vrai que dans la vie, je me lasse assez vite. D'ailleurs, j'arrive même à me lasser de moi-même.
Merci à vous, Laetitia, donc pour ces belles, pour cette soirée, pour ces belles rencontres en perspective. Merci à vous, Bruno. Bruno,
merci
donc
vous,
pour votre venue ce soir sur Cavaillon, pour donner donc ce bel élan à l'association Agoraya. Et merci pour votre présence.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Bruno.
Vous écoutez l'émission Autour du livre avec Annick sur RTVFM.
Notez bien sur vos agendas ce prochain rendez-vous avec l'association Agoraya et son deuxième invité, Olivier Razemont, auteur et journaliste au journal Le Monde, qui viendra faire une conférence sur le thème de « Comment la France a tué ses villes ?», titre de son ouvrage sorti en 2016. Une conférence ouverte, interactive. Et c'est le 24 février à la salle du Grenier, toujours dans la ville de Cavaillon. Olivier Razemont est l'auteur à ce jour de 4 ouvrages. Les transports, la planète et le citoyen. La tentation du bitume où s'arrêtera l'étalement urbain. Le pouvoir de la pédale, comment le vélo transforme nos sociétés cabossées. Et comment la France a tué ses villes. Olivier Razemont. Une petite annonce pour les auteurs de la région. Donc les inscriptions auprès de Nadia Bergougnou commencent en ce mois de février. Nadia Bergougnou qui est présidente de l'association Au fil des mots à Morières-les-Avignon. Donc cette annonce s'adresse aux auteurs. Si vous voulez participer à ce salon, donc le cinquième salon du livre qui se déroulera cette année, le samedi 7 octobre. Alors, les coordonnées de Nadia, si vous voulez donc la contacter pour vous inscrire, ou vous allez sur sa page Facebook au lien suivant, les rencontres littéraires de Morières, ou son téléphone, donc, qui est le 06 21 67 79 92. Voilà pour les petites annonces.
Excusez-moi, je vois tout en noir. Présent sans avenir, sans mémoire. Une terre trop souvent couleur sang. Un ciel encrassé de cendres humaines. Excusez-moi, je suis pessimiste. La loi du plus fort, ça fait des morts. Nos rêves, nos révoltes sont écrasés. Comme du raisin, on vendange les hommes. Quel drôle de monde, quel drôle de monde. Si on voulait, si on voulait. Excusez-moi, je suis rabat-joie. La rouille a rongé nos belles idées. Égalité et fraternité. Des mots trahis, des mots épuisés. Excusez-moi, je me fais des idées. Faut que ça pique, que ça coupe, que ça saigne. Dictateur, dit maintenant en direct. Une seule logique, le règne du fric. Quel drôle de monde, quel drôle de monde. Si on voulait, si on voulait. Excusez-moi, parfois j'hallucine. Réchauffement climatique, effet de serre. Sauver la planète, un vrai casse-tête. La pollution rapporte du pognon. Excusez-moi pour tous mes délires. Même parole, people, bankable. Ça fout les jetons partout, les mêmes têtes. Front botoxé, lèvres gonflées. Quel drôle de monde, quel drôle de monde. Si on voulait, si on voulait. Excusez-moi, je me sens mal aimé. On n'arrête pas de faire des adieux. Abandonner les vents me traverse. Ton désamour fait la nuit sur moi. Excusez-moi de toujours me plaindre. La vie passe inconnue et hâtive. Dans mon enfance, j'étais bien. Mon cœur n'en peut plus d'être un cœur d'homme. Quel drôle de monde, quel drôle de monde. Mais moi aussi, je l'ai construit. Quel drôle de monde, quel drôle de monde. Mais moi aussi, je l'ai construit. Quel drôle de monde, quel drôle de monde. Mais moi aussi, je l'ai construit. Quel drôle de monde, quel drôle de monde.
Mais...
Merci de votre fidélité, chers auditeurs et auditrices, en espérant que cette soirée vous a été agréable et en vous disant au mois prochain pour de nouvelles aventures avec de nouveaux auteurs. Bonne fin de soirée sur Radio Territoire Ventoux, votre radio locale de Carpentras.